Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Avec quelqu'un que ça te pose des problèmes. J'espère que c'était bien, moi.
Je t'en prie, sois pas cynique.
Les premiers temps se passent bien. Il y a tellement de choses à faire au début qu'on ne voit pas vraiment comment est l'autre. Dans le lit, sexuellement, ça va. Il fait ça très bien. Elle aime entendre de la musique pendant. Il la laisse faire, malgré que ses goûts musicaux ne sont pas les mêmes que les siens. No emotion, no surprise. Les jours passent. Petit à petit, elle s'aperçoit qu'il est rêveur, qu'il passe des heures assis sur une chaise, sans rien dire, à se tourner les pouces pour de vrai. Cela l'énerve. Il parle peu et il faut tout lui dire, autrement il ne ferait rien. Il n'a aucun sujet de conversation, n'a pas d'amis, à part un musicien comme lui. Il ne cherche ni à sortir, ni à se distraire. Elle ne le comprend pas. Pourtant, il a des paroles de chansons qui sont très gaies, drôles, parlent de choses très inventives sur les humains, les insectes, la création du monde, le sexe, etc. Elle se demande comment il fait pour écrire des choses si imaginatives alors qu'il ne fait rien. Un jour, elle n'en peut plus de vivre comme ça avec une personne qui est comme un homme, comme un meuble. Elle lui dit « Je te quitte. » Il ne comprend pas. « Je t'aime. » Elle lui répond « C'est pas possible de vivre avec toi. Je crève d'ennui. » Il lui répond « Tu n'aimes pas nos nuits ?» Elle lui dit « Oui. » « Mais la journée, non. J'ai besoin de vivre, moi. Je ne veux pas m'emmerder. » Et elle le quitte. Il déprime, ne comprend pas, et dans une tristesse folle, il a envie de mourir. Il ne fait plus rien, c'est-à-dire plus de chansons. Il retrouve sa mère. Une femme divorcée qui vit pauvrement. Malheureusement, elle ne peut lui apporter que des petites aides. Lui laver son linge, lui donner un peu d'argent. Mais pour ce qui est d'affection, il ne faut pas y compter. Elle est elle-même dépressive. Et l'amour, l'histoire d'amour de son fils lui semble pas grand-chose par rapport aux siennes. Ce ne sont que des histoires de jeunesse qui passent avec le temps. L'amour d'une copine, ce n'est tout de même pas la même chose que celle d'une mère. En tout cas, on n'a qu'une mère. C'est ce qu'elle lui répète. Donc, il va la voir une fois par semaine pour lui apporter son linge. De temps en temps, elle lui demande de l'argent, prendre un repas avec elle. Il va aussi, de temps en temps, voir son copain. Mais ils ne font plus rien ensemble. Donc, la mère lui lave son linge, lui donne de l'argent, mais pour ce qui est de l'affection, il ne faut pas y compter. Un jour en ville, il gare sa voiture dans une petite rue. Il y a devant lui une place pour une autre voiture. Juste où il allait sortir de voiture, vient se garer devant la sienne une autre voiture. Malheureusement, la conductrice ne sait pas très bien ranger la voiture. Elle cogne le pare-choc de la voiture du jeune homme. Elle sort de voiture, lui aussi. C'est une jeune fille de taille moyenne, cheveux châtains, courts, lunettes en monture en plastique vert, bleu, pull beige et collant rose. Elle va vers le jeune homme et lui dit « Je m'excuse, elle n'a rien ?» Il regarde et lui dit « Non. » Le jeune homme la regarde. Elle n'est pas très belle, mais sympathique. Elle est loin des taxis. Pour s'excuser, elle l'invite à prendre un verre. Font connaissance. Elle est secrétaire dans une radio associative et est amoureuse du directeur de la radio. Elle lui dit « Il est gentil, intelligent, beau, etc. etc. » Donc elle est follement amoureuse de lui. Mais lui ne l'aime pas. Il n'a que de l'amitié pour elle et rien d'autre. Comme la jeune fille est gentille, elle lui raconte son histoire. Parce qu'elle le trouve, le jeune homme gentil et fragile. En quittant le café, ils se disent au revoir. Elle lui fait visiter la radio. Lui présente le directeur. Il décide qu'ils feront une émission le samedi après-midi à 16h. Elle l'aidera. La vie reprend pour lui. Elle et lui se sentent bien, sauf sur le point sentimental sexuel, car chacun des deux a son idéal. Un jour, elle cherche un appartement. Il lui dit « Il y a celui qui est en face du mien, qui est libre. » Elle le prend. Vont souvent l'un chez l'autre. Chacun va chez l'autre pour un oui, pour un non. Ils s'entendent bien et, chose bizarre, il vit mieux en couple avec elle qu'il n'aime pas qu'avec celle qu'il aimait. Le temps passe. Ils vivent de plus en plus en couple, chastement, sans sexe ni grande amitié. Elle est toujours amoureuse de son directeur. Lui rêve d'une jeune fille. Dans la nuit, il se masturbe très fortement avec un air de musique. Charles-Emmanuel Ils font des émissions ensemble, recomposent des chansons et revoient son ami. Il ne donne plus son linge à sa mère et ne va plus manger chez elle. Sa mère est heureuse et elle croit qu'il a trouvé une nouvelle campagne et qu'il vit vraiment en couple. Le temps passe. Ils s'entendent toujours aussi bien tous les deux, malgré que chacun rêve de vivre avec un autre. D'ailleurs, ils ne se le cachent pas et cela ne les gêne pas. Ce sont plutôt des copains qui aiment vivre ensemble. Le jour, les jours, les mois, les années passent. Ils sont toujours ensemble. Un soir, il en est surpris et se dit qu'il n'a pas été capable de vivre avec celle qu'il aimait et qu'avec celle-là, oui, pourquoi? Parce que le bonheur, l'amour, la joie d'être avec l'être aimé, pour certaines personnes, ça les rend contemplatifs et ne peuvent rien faire que de savourer leur bonheur. Maintenant que l'idée du scénario est écrite, il faut le développer en scène. Puis, une fois que le scénario est fini, il s'aperçoit que cette histoire ne peut convenir à Y, trop jeune et plein de vie. Puis, il doit trouver un acteur plus calme, plus âgé et moins beau. Il le dit à Y après qu'il l'ait lu dans son salon. « Ça ne peut pas aller pour toi. Tu es trop jeune, beau et plein de vie. » Y lui dit, « L'histoire me plaît, j'aurais aimé jouer ce rôle. » Nicolas lui répond, « Sois pas triste, je te promets un autre film. » Un jour, à son bureau, vient le voir un jeune homme parce qu'il veut être acteur. Le jeune homme est de taille moyenne, cheveux blonds, mince, sympathique, mais pas très beau. Il se dégage en lui quelque chose d'attirant. « J'aimerais faire un film avec vous. Vous vous appelez comment ?»« Guillaume Contet. Vous vivez seul ?»« Oui. » Nicolas lui dit, « J'ai un film pour vous. » Nicolas lui fait faire des essais qui ont l'air concluants et commence à se voir souvent pour travailler le rôle. Petit à petit, Nicolas se sent attiré par Guillaume. Et ça, malgré lui, car il aime Y. se dit que l'un il aime et que l'autre il le désire. Avec Guillaume, il peut et a envie de lui faire des choses, tandis qu'avec Y, il ne pourrait pas, parce qu'il est trop beau et pur. Avec Y, il a envie de le protéger, l'autre il a envie de jouer avec son corps. Les jours passent. Ils s'entendent bien tous les deux, parce que Guillaume est calme, il est gentil, comme son personnage. Lorsqu'ils sont avec Y, Nicolas se sent gêné, et nous s'occupe d'Y plus que Guillaume. Il veut lui prouver, là, que c'est du sérieux. Nicolas rêve constamment à Guillaume, d'une façon sexuelle. Les jours passent. Ils se voient souvent pour la préparation du film, dans le bureau du producteur, lisent le scénario et en parlent. Sortent souvent ensemble, seuls ou avec Y, ou tous les trois ensemble, car il tient à ce qu'Y ne soit pas laissé à l'écart. Puis des jours passent et son désir est de plus en plus grand. Guillaume n'a pas de liaison et semble secret. Il s'est rendu compte de quelque chose de spécial dans leur conversation. Un jour, Nicolas a envie de voir où habite Guillaume. Son adresse est dans le quartier des Batignolles, une petite rue toute triste et populaire, neuve et gris, sale, sans âge. Il entre dans l'allée. Il voit que c'est au troisième étage. Pas d'ascenseur, monte les escaliers de pierre usée. C'est sombre. Troisième étage, porte gauche. La porte est ouverte. C'est Guillaume en t-shirt blanc. Caleçon noir. Pieds nus. Cela lui dit, je te dérange? Non, pas du tout. Je dormais. Entre. Nicolas entre. Guillaume ferme la porte. Il est dans un petit couloir tout sombre. Nicolas lui dit, je passais par là et j'ai eu envie de te voir. Guillaume lui dit, c'est pas extraordinaire ici. Cela lui dit, ne lui dit rien. Viens, je vais te mener dans la pièce. C'est qu'une pièce. Il ouvre une porte vitrée en face de la porte. Ils entrent. La pièce carrée, sombre. Les volets sont pas ouverts. Lit défait. Vêtements sur une chaise. Table remplie de cassettes. Papier libre. Cuisinière, réfrigérateur, buffet, formica et armoire. Guillaume va vers le lit, le range un peu. Range dessus billes rouges. Il ramasse à terre un paquet de cigarettes. Il reste encore des bouteilles de bière et un verre qu'il laisse à terre. Puis, Il s'assoit sur le rebord du lit et dit à Nicolas, viens t'asseoir. Nicolas s'assoit à côté de lui. Nicolas lui tend le paquet de cigarettes. Tiens, non, je ne fume pas. Guillaume s'en prend une et dit, tu vois, je suis ici. Je suis arrivé à Paris il y a un an sans presque rien. Je voulais être acteur. Je ne savais pas que c'était si difficile. Alors j'ai arrêté de chercher et ai fait des petits boulots. Les halls le matin, l'après-midi barman. Enfin, on arrive à se faire un peu de sous, quoi. Et puis, j'en ai eu marre. Je suis tombé sur ton immeuble et ta plaque. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Nicolas lui demande, tu viens d'où? De Normandie, un bled sans rien. Tu veux boire? Oui, je veux bien. Guillaume prend la bouteille et le verre, bouteille de bière et le serre. Tiens, il en prend un pour lui aussi. Tiens, ne fais pas de soucis, le verre était propre. Nicolas boit. Nicolas boit. Après avoir bu un verre, Nicolas lui demande, tu as une petite amie? Non, pas de petite amie. Ça ne te manque pas? Pas vraiment. Il se sert encore un verre. Nicolas est très attiré par Guillaume, car il est tout près de lui. Il sent comme une chaleur, une odeur de cigarette et de jeune garçon qui l'excite. Guillaume lui demande, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Nicolas lui dit, parce que je te trouve très excitant. Guillaume sourit et lui dit, oh ça, tu ne m'as pas essayé? Nicolas lui dit, je me demande que ça. Il se couche sur le dos, termine son verre, le pose sur le sol. Il reste une minute sans bouger. Guillaume regarde Nicolas. Nicolas le regarde. Guillaume lui sourit. Nicolas se penche et lui caresse ses cheveux. Tu as de très beaux cheveux. Cela te gêne pas que je les caresse? Non. Nicolas s'allonge près de lui, tout en continuant à lui caresser les cheveux. Il lui donne un baiser sur le front, la joue, les lèvres. Guillaume ne bouge pas. Alors tout doucement, il lui soulève son t-shirt. Nicolas lui caresse la poitrine. Il lui dit, mais douce et fine. Il cherche à lui enlever le t-shirt. Guillaume l'aide. Puis, il finit de déshabiller Guillaume. Ce qui est simple parce qu'il ne lui reste qu'un sous-vêtement. Ensuite, il se déshabille. La chose se passe très bien, car Guillaume est très sensuel et se donne en fond, ce qui fait que Nicolas peut jouer comme il le désire. n'y a eu aucun remords. Une fois habillés tous les deux, Nicolas lui demande « Nous recommencerons ?» Guillaume lui répond « Oui, parce que ça s'est très bien passé. Et puis, je n'aurais pas cru que l'on puisse entendre sur ce sujet. » Nicolas embrasse Guillaume et sort de l'appartement. Les jours passent. Enfin, le film commence. Guillaume drague un peu la fille qui joue avec lui. Mais cela ne l'empêche pas de passer les nuits avec Nicolas. Une nuit, au lit, Nicolas lui demande « Cela ne te gêne pas de draguer les filles et de coucher avec moi ?» Guillaume lui répond « C'est pas la même chose. Le plaisir n'est pas le même. » Le film se fait dans la bonne humeur. Nicolas n'a jamais été aussi bien. Y est un peu jaloux de Guillaume. Il fait tout pour être avec eux et fait un peu de séduction. Le soir, chez Nicolas, il reste le plus longtemps possible car il ne veut pas qu'ils restent ensemble. Alors Guillaume fait semblant de les quitter et revient une heure plus tard. Les jours passent. Le film est fini, Nicolas est satisfait, Guillaume part au Canada tourner un autre film, Nicolas reste seul avec Y, la paix revient et le désir sexuel s'apaise. Benoît, le père de Nicolas, est dans son bureau. C'est la nuit. Il n'y a pas de bruit. Il réfléchit. Je me sens vieilli, fatigué. Mais je m'aperçois que je me fatigue plus vite qu'avant et que beaucoup de choses m'ennuient. Mais, malgré tout, en vieillissant, l'esprit reste jeune. On fait des projets. On ne se voit pas vieillir, sauf dans certaines circonstances, comme cette nuit. Mais la plupart du temps, on s'en aperçoit que d'après les regards des autres, leur façon d'être avec vous, et cette fatigue physique. Le corps ne suit plus le cerveau. Alors un drame intime se fait. On se dit que tous les projets que l'on a, on n'aura pas le temps de tout faire. Il faudra faire un tri. Il faut commencer à penser à sa fin. Le temps devient presque une chose physique. Avec qui il faut lutter. Il soupire, se lève, fait quelques pas, et se rassoit. Comment vais-je mourir? La grande question. Est-ce que ça fait beaucoup souffrir? Malgré moi, j'ai peur. Pas de la mort, mais du passage de la vie à trépas. Que va-t-il rester de moi? Si j'en garde un souvenir qui n'est pas celui que je suis, je ne pourrai pas le rectifier. Pendant ce temps, Nicolas pense et se dit que l'on peut écrire ou filmer plusieurs fois le même sujet d'une façon différente et en y ajoutant à chaque fois des vérités. Il cherche un sujet sur ce thème. Un jour, en se promenant dans la rue, il voit marcher un œil de taille moyenne, cheveux gris, habillé d'un pardessus gris. Cet homme est simple, quelconque. Que là, en le voyant, cet homme se sent mélancolique et se dit que même chez l'homme le plus simple, il y a toujours une douleur intérieure. Et c'est cette douleur qui le rend grand. Et la plupart du temps, personne ne le sait. Et lui, le sait-il vraiment? Je trouvais un sujet sur ce thème. La douleur de n'avoir jamais aimé, jamais entendu dire « je t'aime ». Et maintenant, je suis trop vieux. Cette douleur, la peur, jamais été aimé, peut rehausser l'homme. Mais comment faire un film de toutes ces idées? Le soir au salon, il en parle à Y. Comment transformer en histoire une idée sur les douleurs de l'homme? Comment transformer des idées en faits et gestes dans une histoire? En parler à la radio dans un livre, c'est plus facile. Là, on peut expliquer ce qui se passe dans la tête du personnage. Mais au cinéma, au théâtre. Y se sert un verre. Colin continue à parler. Bien sûr, cela peut se faire d'une façon simple et on ne se sert pas vraiment de la façon de s'exprimer par ses outils propres. Y lui demande « Comment ?» Nicolas lui répond « Par exemple, en faisant faire un monologue de ce que ressent la personne devant le public face à la caméra. C'est simple et c'est plutôt du café-théâtre que du théâtre ou du cinéma. Et l'on ne se sent pas on ne se sert pas de la mise en scène pour s'exprimer, ni de l'espace. On peut aussi, d'une autre façon, plus compliquée, voir des visages, des faits et gestes sur la vie quotidienne et mettre une voix off racontant les troubles, le bouillonnement intérieur des personnages, des images où ne se passe rien, avec un dialogue intérieur qui bouillonne. Y lui dit, c'est mieux que la première version. Nicolas lui dit, oui, mais ce n'est pas la panacée. Ça peut plaire aux cinéphiles, bon chic, caviar de gauche, parce que pour eux, le cinéma ne doit pas avoir d'émotion, surtout pas sur les images. Le test passe encore parce que c'est la littérature. Pour eux, avec l'image, c'est vulgaire. Elle doit être le plus neutre possible. Les films qui expliquent, qui emplissent les salles, ça ne peut pas leur aller. Ils s'ennuieraient. Il leur faut une histoire simple, sans histoire, avec des images et un son non synchro. Nicolas soupire et dit, donc il faut trouver une histoire qui traite d'un sujet philosophique, ou plutôt transformer un sujet philosophique en histoire. C'est ce qu'il y a le mieux, et ce qui est vraiment de la création à 100%. Bien sûr, c'est la version la plus difficile à trouver comme scénario. Tous les grands sujets ont été des sujets philosophiques, et ce sont eux qui ont fait les plus belles histoires, des histoires immortelles qui ne se démodent jamais. Y demande, qu'est-ce qu'une histoire immortelle? Nicolas lui répond, des histoires qui traitent de sujets de tout temps, des sujets qui se démoderont jamais, parce qu'ils sont de toute époque. Bon, maintenant, il faut trouver une histoire qui démontre que chaque homme, même le plus modeste, a une douleur, un drame intérieur, et que ce drame le rehausse. Que personne ne connaît son drame et que lui-même ne s'en rend pas compte ou plus compte. Qu'il souffre et que cette souffrance le met au-dessus des autres. Bon. Alors, il faut trouver un personnage. Dire quelle douleur est en lui. Comment va-t-il? Vit-il avec cette douleur? Et pourquoi ça le rend grand? Cherchons. Y lui dit. Encore une histoire de vieux? Tu m'avais dit que ton prochain film serait pour moi. Nicolas lui répond. Oui, mais comme je veux travailler sur ce sujet, parce que si je pense à autre chose, ou si j'attends trop, j'aurai plus envie, et je torcherai, je le ferai plus ou je le raterai. Je fais ce scénario et après je pense à toi. Ce sera pas long. Il faut que je trouve l'histoire d'un homme qui a raté sa vie. Dès que j'ai trouvé, j'ai plus qu'à écrire. Voilà. Prend une feuille de papier et réfléchit. Après un moment de réflexion, il essaye d'écrire un scénario. Un homme a aimé toute sa vie une personne, à l'âge de 16 ans. La personne aimée ne l'a jamais su. À cause de son amour pour elle, il a fait deux fugues pour aller la voir parce qu'elle habitait Paris. Malheureusement, la première fugue, il était pris par la police et rend dans les rues. Et la deuxième fugue, c'est les parents de la jeune fille qui l'ont dénoncé à la police comme fugueur. La police lui a fait promettre de ne plus revenir et a cherché à la voir. Ses parents, la police leur a dit qu'il était responsable de lui, comme s'il n'était pas déjà. Mais les parents se sont imaginés qu'on leur demandait une responsabilité supplémentaire et qu'ils devaient jouer les geôliers. Ils ont pris peur, ont cru qu'ils allaient être surveillés pour voir comment ils allaient surveiller leur fils. Ils en avaient peine et honte. Donc, ils ont pris très au sérieux leur nouveau rôle, qui n'en était pas un, étant donné que tout parent doit surveiller et savoir où se trouve leur enfant ou adolescent mineur. Ils vont séquestrer leur fils pour l'empêcher de partir ou éviter qu'il fasse des ennuis. Il ne pouvait ni sortir, ni voir qui que ce soit. Ses études étaient finies pour lui. On le met à l'usine, et à cette époque, l'usine, c'est l'usine. Son univers est désormais l'usine et la maison. À la maison, on ne lui parle pas, ou très peu, et en lui reprochant constamment ses fugues. On lui dit qu'il n'est qu'un égoïste, qu'il n'aime pas sa famille, lui, trop intimidé, n'ose rien dire. Sa vie est noire, morose. Il continue à aimer la jeune fille et est au supplice de ne pas la voir. Son amour est son seul rayon de soleil. Il fait un travail qu'il n'aime pas, et vit chez des parents qu'il croit qu'ils ne les aiment pas. Le temps passe. Les parents meurent. Il vit seul. Les parents sont morts tard, ce qui fait qu'il n'a pas eu de jeunesse. Les années passent, tristes, monotones. Il continue toujours à aimer la personne, mais est devenu triste, aigri, de plus en plus replié sur lui-même. Rien ne l'intéresse. Avec les autres, il est hargneux, teigneux, lorsqu'on lui fait quelque chose. Ce qui veut dire, moi j'ai jamais été heureux. Alors les autres, ils n'ont qu'à ne pas l'être. Je n'ai pas à les aider non plus, à les aider à l'être. Un jeune couple qui pourrait être joué par les mêmes acteurs qui jouent le héros en adolescent. Ce jeune couple, ses neveux, lui demandent de l'aide car ils veulent s'installer à Paris. Ils refusent. Comme ils sont sans argent, ils ne peuvent vivre ensemble. Le temps passe. Sa vie est triste, solitaire, grise. Si on le voit, on se dit « pauvre type ». Mais au fond de son cœur, il y a un secret. C'est cet amour de toujours qui lui éclaire l'âme. Un jour, il voit dans la rue, des années bien après le refus de l'aide de ses neveux, il voit un jeune couple qui dorment enlacés l'un contre l'autre sous une porte cochère. Ils ont entre 16 et 17 ans. Ils sont orgueillis, mais beaux. Cela l'émeut, car ça lui rappelle son amour. Il les voit se lever et marcher dans le froid, enlacés, ne sachant où aller. Il a pitié d'eux, il a peur qu'il leur arrive quelque chose. Alors, prenant son courage à deux mains, il les accoste, leur demande qui ils sont. Ils lui disent qu'ils ont quitté leurs parents pour vivre ensemble. Alors, il les mène chez lui. Les parents sont morts depuis longtemps. L'appartement n'a pas changé. Il les héberge, leur donne les repas. Il leur demande ce qu'ils savent faire et où habitent leurs parents. Car ils sont mineurs et il a peur de les héberger comme ça. Il écrit aux parents pour leur demander l'autorisation de les héberger chez lui. Les parents acceptent. Petit à petit, il se remet à vivre. Il se remet à vivre en pensant aux autres. Il fait des projets d'avenir pour eux, études, travail ou autre. Mais il y a tout juste le temps d'être heureux et d'extérioriser son amour. Il fait vivre aux deux adolescents ce qu'il aurait aimé vivre avec sa bien-aimée. Il court, s'excite, va, vient, extériorise ce qu'il a aimé, accumulé dans son corps déjà depuis 20 ans. Comme il n'a plus 20 ans, il s'essouffle et meurt d'une crise cardiaque. Voilà, le scénario, plutôt le résumé du scénario est fini. Maintenant, il reste à le développer. préfère débuter l'histoire en présentant l'homme adolescent, suivre l'ordre chronologique, cela fait plus dramatique, mais moins cinéphile. Ou présenter l'homme dans l'âge mûr et petit à petit raconter l'histoire de sa jeunesse aux adolescents. Cette deuxième version, plus économique, est téléfilm. Ou présenter vieux et en même temps, par flashback, présenter sa jeunesse pendant qu'il vit avec les jeunes. Cette troisième version est plus téléfilm et moins public. Nicolas choisit la première version parce que cela lui permettra de donner le rôle de l'homme adolescent à Y. Dans la troisième version, aussi Y aurait pu avoir le rôle, mais un rôle qui aurait été moins important, et on l'aurait vu dans des scènes courtes, entrecoupées avec celles du vieux, on l'aurait moins remarqué. Donc il choisit la première version, comme cela il y aura plus de la moitié des scènes à lui, et même les trois quarts. Il le dit à Y, qui est satisfait. L'homme âgé sera joué par Nicolas Grimet, mais pas trop pour pouvoir faire un vieux caricatural. Le temps passe. Après la recherche de l'argent, lieu de travail et autres comédiens, le film commence à se tourner. Ça se passe dans la bonne humeur et en famille. Nicolas a décidé de tourner dans un vieil appartement du Marais. Le film ne coûte pas trop cher. Après 2 mois de travail, le film est présenté et bien accueilli parce qu'il raconte une histoire d'une façon simple en suivant la chronologie. Le public peut suivre sans problème une histoire d'amour toute simple. Dans le scénario définitif, il a rajouté des scènes où le jeune adolescent voit la jeune fille, essaye de lui écrire, rêve d'elle, etc. Nicolas est de plus en plus attiré par Y. Il pense à lui constamment et prend peur pour lui. Il ne veut pas que son avenir soit gâché par la vie. Il aimerait lui demander de mourir avec lui, mais n'ose pas le lui demander car il fait si jeune. Alors il le couvre, le protège. Fais attention à tes fréquentations. Les gens sont tellement méchants et jaloux. Et puis, tu seras jugé par elle. Il va pas trop vite en voiture, etc., etc. Nicolas a peur de l'avenir. Il veut la mort et en même temps la redoute. Et puis, il a peur de la dégradation, de perdre ses facultés mentales et autres. Il se demande comment sera Y dans 20 ans. La vie ne va pas tel drôle de dégrader, il est au maximum de sa beauté. Nicolas passe des heures à le regarder. Le jeune homme s'en aperçoit. S'aperçoit du charme qu'il a sur Nicolas. Et puis, un jour, pour lui faire plaisir, il lui dit « J'aimerais prendre ma douche. » Nicolas lui dit « Fais comme chez toi. » Y lui répond « C'est pour te faire un cadeau. Je te permets de me regarder doucher. » Mais rien de plus, hein.
D'accord.
Oui, dit Nicolas excité et gêné.
Ils se lèvent tous deux. Et vont dans la salle de bain. Il se déshabille.
Il se douche. Que là est tellement ému, il n'a rien ressenti. Et il a vu comme dans un brouillard. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 26e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.